France Inter. Nicolas Demorand, le 7-9.
Et l'invité du grand entretien de la matinale aujourd'hui est le titulaire de la chaire d'histoire moderne et contemporaine du politique au Collège de France. Il participe à un livre collectif, Le fond de l'air est jaune, aux éditions du Seuil, sous-titre Comprendre une révolte inédite, celle des Gilets jaunes évidemment. Bonjour Pierre Rosanvallon.
Bonjour.
J'aimerais pour commencer tout de même remonter à 2014. Il y a 5 ans, vous avez publié un autre livre qui s'intitulait Le Parlement des Invisibles, et qui partait d'un constat, citation, « Une impression d'abandon exaspère aujourd'hui de nombreux Français. Ils se trouvent oubliés, incompris, pas écoutés. Le pays, en un mot, ne se sent pas représenté. » Je le redis, c'était il y a 5 ans. Qu'est-ce qui vous avait permis alors d'arriver à ce constat, Pierre Rosanvallon? Constat qui est aujourd'hui largement partagé, mais qui à l'époque était plus que prémonitoire.
À l'époque, ces questions, les questions que nous vivons aujourd'hui à travers ces éléments divers de révolte sociale, ils étaient déjà présents, mais ils étaient souterrains. Ils n'avaient pas encore explosé, si je puis dire. Mais il y avait déjà, ça se manifestait par des taux d'abstention qui étaient assez élevés. Ça se manifestait aussi par une sorte de colère sourde et non pas de colère ouverte. Et ce sentiment de mal-représentation, il nous rappelle une chose très importante. C'est que la démocratie, dit-on, elle est un régime représentatif. Mmh. Représentation, là, voulant dire, on élit des représentants qui font les lois, par exemple, ou des représentants qui sont des porte-parole. Mais être représenté, ça a un autre sens. Être représenté, cela veut dire aussi que les problèmes que vous vivez, vos difficultés du quotidien, elles sont mises sur la table, elles sont présent dans la vie publique, dans le débat social. Mmh. Et si nous avons des représentants, si nous avons des élus, cette vision de la représentation, comme faire en sorte que chacun ait le sentiment que ce qu'il vit compte pour quelque chose, c'est ça qui ne fonctionnait pas. Et pour cela, il faut peut-être d'autres institutions que simplement les parlements et que simplement les élus.
On va y venir. On voit bien que le mouvement des Gilets jaunes refuse de se structurer politiquement au sens classique du terme. Thomas Legrand le disait encore tout à l'heure. L'annonce il y a 2 jours d'une liste Gilets jaunes aux européennes a déclenché instantanément une vague de critiques venue d'autres Gilets jaunes. Alors la question reste entière. Comment on représente, comment on se représente quand on est invisible et quand on refuse pour certains de se couler dans les règles de la démocratie représentative? Il reste quoi à part la manifestation dans la rue?
Il reste quoi à part la manifestation? Il reste tout de même d'autres choses. Alors même que les ouvriers n'avaient pas le droit de vote pendant toute une partie du 19e siècle, avant 1848, eh bien, ils s'exprimaient. Ils faisaient en sorte de publier des journaux. Ils essayaient même d'élaborer des statistiques pour rendre compte des réalités qu'ils vivaient. Il y avait même ce qu'on appelait à l'époque les poètes ouvriers, c'est-à-dire ceux qui racontaient la vie quotidienne et ses difficultés. Et je crois que dans le mouvement des Gilets jaunes, il y a cette dimension de prise de parole et puis une autre dimension qui doit la suivre, mais peut-être qu'elles sont séparées, et on le voit actuellement qu'elles se séparent, celle d'une mise en forme et celle de passer de la représentation expression à la représentation construction politique.
Mmh. Mais ça, c'est pas facile. Est-ce qu'un mouvement peut rester pur? Je mets des guillemets. En l'occurrence, horizontal, réfractaire à la politique au sens classique. Est-ce qu'il peut rester pur et ne pas disparaître?
Il ne peut pas rester pur en ce sens que un mouvement ne peut pas passer son temps à être simplement dans l'action. Mais un mouvement peut rester un mouvement d'expression. Après tout, ces jours-ci, il y a aussi un film qui vient de sortir avec, dans son titre, Les Invisibles. Et cette question de rendre visible la réalité, elle préoccupe aussi des chercheurs en sciences sociales. Elle préoccupe des romanciers. Regardez le prix Goncourt de cette année. Elle préoccupe aussi des journalistes qui font des enquêtes. Et donc, ce qui peut rester permanent et ce qui doit rester permanent, c'est ce souci de rendre compte de ce qui était caché dans la société et de en permanence d'essayer de mieux la comprendre, de mieux la connaître, de faire que chacun ait le sentiment que ce qu'il vit est raconté, que ce qu'il vit compte pour quelque chose.
Vous aviez vu tout cela donc il y a 5 ans déjà, Pierre Rosanvallon, le chercheur avait donc travaillé, était en quelque sorte en avance sur la mise en mouvement de l'histoire telle qu'on a pu la voir à la fin de l'année 2018. Est-ce que le citoyen Rosanvallon a été médusé tout de même par le mouvement des Gilets jaunes?
Oui, pour une raison très simple, c'est que pour la première fois, on a une forme d'expression sans canalisation. On a une sorte de mouvement social brut. Jusqu'à présent, les mouvements sociaux et des révoltes, il y en a vu beaucoup, mais très vite, les révoltes, elles se canalisent, elles s'organisent, elles se donnent des organisations, elles se donnent même des moyens d'expression, comme des journaux. Alors, il est vrai aujourd'hui qu'il y a des comptes Facebook qui jouent ce rôle-là. Mais d'une manière ou d'une autre, le mouvement, jusqu'à présent, avant cette annonce peut-être d'une liste aux européennes, reste un mouvement tout à fait brut. D'un certain point de vue, on peut dire qu'il participe de ce moment populiste en général dans les démocraties. Ce moment populiste, il n'est pas français, il est européen, il est américain, il est latino-américain, il est aussi en Asie et en Afrique.
Mais pourquoi populiste et pas populaire?
Populiste au sens très précis que le populisme n'est pas simplement une expression populaire, le populisme désigne aussi un registre de solutions. Dans le populisme, il y a deux choses. C'est le symptôme d'un problème, c'est l'expression d'un désenchantement, l'expression d'une colère. Et puis de l'autre côté, c'est tout un ensemble de solutions. Et ces solutions, c'est par exemple l'usage du référendum. Cette solution, c'est la vision d'une société coupée en deux entre un peuple général et puis des toutes petites élites. Il y a donc, je dirais, dans l'idée populiste, il y a à la fois le mouvement social populaire et ses colères, et puis un type de solution qui généralement est bien caractéristique aussi de tout ce qu'on rencontre en Europe.
Pierre Rosanvallon, est-ce que le grand débat national tel qu'il est organisé par l'État, avec des thèmes précis, des questions fermées, d'autres ouvertes, est-ce que ce grand débat peut permettre de sortir de l'impasse?
Ce grand débat doit surtout montrer que on ne pourra plus continuer à faire vivre la démocratie française comme elle a vécu jusqu'aujourd'hui. Certainement qu'il faut des changements institutionnels, au sens de la proportionnelle, au sens du nombre des députés. Il y a tout un ensemble de réformes qui sont évoquées et qui devront être mises sur la table et opérées. Mais autrement, il faut aussi faire vivre en permanence un nouvel esprit de la démocratie. La démocratie, on dit, on fait un grand débat. Non, la démocratie doit être un régime qui débat, un régime qui contrôle, que le citoyen ne se sente pas simplement le citoyen intermittent des élections. Je suis frappé qu'aujourd'hui, dans la colère, il y a aussi ce sentiment d'impatience, que la démocratie ne va pas assez vite, qu'on a élu quelqu'un il y a 2 ans, mais qu'il faudrait déjà passer à autre chose. On ne va pas construire une démocratie qui va être celle du vote permanent. On ne va pas passer une démocratie où tous les 6 mois, on va réélire.
Mais alors donc, on traite comment l'impatience d'une manière politique?
Eh bien, l'impatience d'une manière politique, on la traite par le fait de construire tout un ensemble de nouvelles fonctionnalités démocratiques. Il faut faire vivre une démocratie de surveillance, il faut faire vivre une démocratie de contrôle, une démocratie qui rende des comptes, une démocratie d'évaluation, une démocratie d'information. Au fond, vous voyez, la démocratie, ça n'est pas simplement élire de temps en temps des gouvernants. La démocratie, c'est un régime d'interaction permanente entre la société et les gouvernants. Alors l'élection, c'est une forme d'interaction, mais il y a aussi justement ces éléments de contrôle, de surveillance, de reddition de comptes, d'évaluation des politiques, et puis d'instaurer, je dirais, de retrouver d'une certaine manière cet esprit fondamental de la démocratie, qui est une société qui délibère, une société qui discute en permanence.
Mais où et comment? Eh bien, Pierre Rosanvallon, au Conseil économique, social et environnemental, faut inventer d'autres assemblées?
Eh bien, ça peut être de plusieurs façons. Bien sûr, des lieux autrefois privilégiés du débat démocratique, du débat politique, c'était le Parlement. On voit que c'est trop étroit, ne serait-ce que pour une raison très simple. C'est que le Parlement est simplement là pour voter la loi, pour soutenir ou pour critiquer le gouvernement. Mais il a perdu toutes ses autres fonctions pratiquement. Donc évidemment, on pourrait imaginer tout à fait qu'une institution comme le Conseil économique et social environnemental se transforme en une espèce de maison des citoyens et qui soit le cœur battant, si je puis dire, d'expérimentations, de tout un ensemble de pratiques, de jurys citoyens, en jouant son jeu, ce qui d'ailleurs la Constitution actuelle lui donne, dans des possibilités de référendum d'initiative citoyenne, jouant son jeu aussi dans l'organisation sur des thèmes comme celui des retraites, disons, parce que c'est aujourd'hui tout à fait présent, d'organiser du débat public. Alors, il y a ces formes d'organisation, je dirais, à partir d'une institution. Et puis, il y avait aussi la Commission nationale du débat public, mais on a vu qu'au fait, au fond, elle ne jouait pas vraiment son rôle. Mais il faut, à côté, que ce soit des choses prises en charge par les citoyens. C'est pas simplement une délibération organisée, c'est un esprit de délibération. Et là, ce sont les associations, ce sont les syndicats, ce sont aussi les médias, c'est la radio. Après tout, c'est un forum aussi, une radio. Et c'est cela qui doit se développer. Donc c'est chacun, je dirais, même s'il faut des institutions à travers cette réforme du Conseil économique par exemple, il faut aussi que cet esprit de la discussion, esprit de la délibération, il soit permanent. Et pourquoi ? Pas simplement de discuter pour discuter, mais de discuter pour permettre d'arriver à cette distinction qui est fondamentale dans la démocratie. Où sont les oppositions d'intérêts ? Où sont les conflits ? Où sont les oppositions de valeurs d'un côté et d'autre part les simples malentendus ? Je dirais aujourd'hui tout est mélangé. Il y a des malentendus, des informations déformées et puis de l'autre côté des vrais conflits. Bien, la démocratie, c'est réduire, si je puis dire, les malentendus, et puis vraiment aller au fond des vrais conflits. Ça n'est pas une vision irénique du consensus.
En ce moment, le président de la République, Pierre Rosanvallon, parle. Il parle aux maires. Hier soir, il parlait à un certain nombre de citoyens. Et c'est en soi un événement. En tout cas, c'est comme ça que c'est traité sur le plan médiatique. Qu'est-ce que ça dit de la fonction présidentielle à la française que le simple fait de parler avec des Français soit un événement ?
Eh bien, c'est un événement si effectivement on considère le présent, le président, comme un être jupitérien. Parce que un être jupitérien ne s'exprime que par la foudre ou que par des paroles aussi fortes que rares. Et là, il se fait humble et il a la parole facile. Alors, il a la parole aussi, il faut le voir, c'est une parole qui ressemble assez à une parole de campagne électorale. C'est une parole d'explication, c'est une parole de professeur aussi, mais en soi, c'est un exercice qui devrait être plus fréquent aussi. Je pense que dans des fonctions officielles comme celle de président de la République, il y a cette fonctionnalité officielle, mais il y a aussi cette interaction plus permanente avec les citoyens. Ce que nous vivons actuellement à travers cet épisode des Gilets jaunes, il faudrait surtout pas qu'on ait l'idée qu'il faut fermer la parenthèse, qu'il faut en terminer. Il faut voir que ça nous appelle à un autre fonctionnement différent et permanent de la démocratie. Donc si c'était simplement des habiletés pour mettre de l'eau sur l'incendie, eh bien ce ne serait pas suffisant.
Le RIC, référendum d'initiative citoyenne, on va aller au standard juste après cette question, dans sa version extensive telle qu'il a pu être demandé dans un certain nombre de cortèges de gilets jaunes, proposer des lois, en abroger d'autres, révoquer des élus, ce RIC est-il utile, dangereux, permettrait-il de mieux gouverner ? Comment l'analysez-vous ?
Eh bien, il faut l'analyser en allant au fond des choses. Si on dit que le référendum est la voie directe du peuple et donc il a une solennité et une force supérieure, ce qui est le cas, à ce moment-là, ça pose tout un ensemble de questions. La première question, la validité du référendum est-elle simplement de 51 pour 49 ? Quand on change la Constitution, il y a deux façons de le faire. Il y a le faire à travers le vote du Congrès, c'est-à-dire du Sénat et de l'Assemblée nationale. Mais là, il faut les deux tiers des voix. Et quand c'est la voix des citoyens, simplement 51-49. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que pour des référendums qui portent sur les conditions de l'organisation des libertés publiques, les conditions de fonctionnement du régime démocratique, est-ce que la simple majorité est suffisante ? Donc, c'est la première chose du référendum. Si le référendum est une expression supérieure et solennelle de la souveraineté du peuple, et elle l'est, eh bien, à ce moment-là, il lui faut peut-être des conditions, je dirais, plus fortes de majorité. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la démocratie, ça ne peut pas être l'addition permanente des référendums. Vous savez, dans les années 70, il y avait une expression « avec le progrès de la technique, on va aller vers le vote électronique ». Chacun pourrait, le soir, avoir son point de vue et son vote à exprimer sur les 10 référendums quotidiens. On munirait chaque citoyen d'un boîtier et devant sa télévision le matin, on dirait voilà quels sont les 10 référendums du jour et le soir, on appuierait sur les boutons et ça ferait des milliers de référendums dans l'année. Pourquoi ça ne fonctionnerait pas, ce système de référendum permanent, de démocratie permanente? C'est que la démocratie, ça n'est pas simplement prendre des décisions, c'est premièrement prendre des décisions qui peuvent être mises en œuvre et qui sont suivies d'effets. Le risque de beaucoup de référendums, c'est que les référendums posent une question, mais que cette question n'inclut pas la gestion de ses conséquences. C'est le problème du Brexit. Le problème du Brexit, c'est que on vote, êtes-vous pour ou contre la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, mais on ne dit pas comment on va s'en tirer.
Oui, l'intendance suivra après le référendum.
Justement, la réalité, c'est que l'intendance ne suit pas. Même Monsieur Blocher en Suisse, qui fait voter des référendums en disant qu'il faut mettre les étrangers dehors, eh bien après, ces référendums ne sont pas suivis d'effet parce qu'on se rend compte que c'est contraire à tout un ensemble de traités frontaliers qu'a la Suisse ou aux arrangements généraux qu'elle a avec l'Union européenne. Donc, sur ce point là, on peut dire qu'il y a un usage qui doit nécessairement être solennel et limité du référendum, parce que la démocratie, ça n'est pas simplement prendre des décisions instantanées, c'est construire une volonté générale, c'est construire une politique. Et si on additionnait les référendums tous les 15 jours, on aurait un référendum dans un sens, un référendum dans un autre sens. Or, l'essence du référendum, c'est de donner une direction longue.
Carole est en ligne au standard de France Inter. Bonjour, bienvenue, nous vous écoutons, Carole.
Bonjour, je voudrais savoir si, pour continuer à exister, pour continuer à être vu, le mouvement des Gilets jaunes ne devrait pas s'arrêter, ne surtout pas se présenter, faire une liste aux européennes et dire, nous faire passer le message comme ils arrivent à le faire grâce à vous, les journalistes, et dire, nous sommes là, nous arrêtons le mouvement, mais attention au gouvernement, nous vous surveillons. Si jamais il y avait encore quelque chose, nous sommes à pouvoir et nous pouvons à nouveau manifester.
Merci Carole pour cette question. Pierre Rosanvallon, un mouvement vigie en quelque
voilà,
sorte.
Voilà, vigie, on pourrait dire vigilant. On pourrait passer des gilets jaunes aux vigilants. Je crois que cette idée, la vigilance, peut être un sentiment permanent de démocratique, et qu'effectivement, il serait très important de le faire vivre.
On retourne au standard. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Bienvenue.
Bien, j'ai deux petites questions qui m'ont été inspirées par la visite d'un rond-point en Moselle-Est. Donc j'ai discuté avec les personnes pour voir un petit peu quelles étaient leurs motivations et leurs revendications. Et ce qu'il en est ressorti, c'est un discours leur représentation de la vie sociale reflète un petit peu ce qu'on leur a enseigné, c'est-à-dire la France est un pays révolutionnaire. La question que je me pose, c'est est-ce que le récit historique de l'éducation nationale ne conditionne pas une certaine représentation de la vie sociale et des relations sociales en France. Et je me pose la question, pourquoi à 18 ans on a le droit de vote et pourquoi n'y a-t-il pas d'enseignement obligatoire du droit pour les lycéens? C'est quand même pas normal qu'on ne connaisse ni le droit des collectivités, le droit associatif, le droit civil, les fondamentaux, et qu'on ait le droit de vote et qu'en finalement la majorité sont des ignares en matière juridique.
Merci Laurent pour cette question. Alors, est-ce qu'on apprend à être révolutionnaire à l'école?
En tout cas, on apprend à être citoyen. Il y avait autrefois les vieux cours d'éducation civique et morale à l'école primaire même. Et aujourd'hui, dans les programmes du collège et du lycée en tout cas, il y a des cours d'instruction civique et qui sont aussi liés aux cours d'histoire. Parce qu'au fond, l'intérêt de l'histoire politique, ce n'est pas simplement de connaître le passé, c'est de connaître le passé comme un ensemble d'expériences, comme un ensemble de tâtonnements qui peuvent nous instruire pour aujourd'hui. L'histoire n'est pas simplement un réservoir de mémoire. L'histoire, c'est un laboratoire actif qui peut nous faire comprendre le présent.
Alors, deux questions sur l'application France Inter. Olivier, colère sourde, persistante, qui s'exprime aujourd'hui au travers des Gilets jaunes. Ok, dit-il. Mais comment ceux qui sont contre le mouvement des Gilets jaunes peuvent-ils exprimer leur colère? Ils ne vont pas bloquer des péages et des ronds-points. Que faire?
Le problème est de savoir ce que veut dire être contre le mouvement des Gilets jaunes. parce que dans le mouvement des Gilets jaunes, il y a un mélange de revendications sociales et de revendications démocratiques. Et les questions que posent les Gilets jaunes, on peut apporter des réponses certainement différentes. Mais je pense que l'on ne peut pas être contre se poser les questions de l'état de la justice sociale dans le pays. On ne peut pas ne pas se poser la question du désenchantement démocratique des citoyens. Et même si les Gilets jaunes, pour certains, le posent de façon qui apparaît trop simpliste ou trop violente, les questions, elles existent bien.
Autre question d'Hugo, toujours sur l'application France Inter. Les politiques doivent-ils appliquer les solutions trouvées par les citoyens ou trouver des solutions aux problèmes des citoyens?
Les deux, en général, c'est-à-dire que les citoyens posent des questions et qu'il faut effectivement apporter des réponses en termes de politique générale. Et que veut dire une politique générale? C'est une politique qui tient les deux bouts, à la fois des ressources et des dépenses, des contraintes et des possibilités. Donc je dirais la fonction gouvernementale, elle a cette fonction de faire rentrer la demande sociale dans la possibilité et la réalité, et de discuter justement quel est le champ des contraintes et quel est le champ des possibilités, parce que c'est toujours quelque chose qui est sujet à discussion.
Et c'est Serge qui est au standard maintenant. Bienvenue Serge, bonjour.
Merci, bonjour. Moi, j'ai un questionnement sur les Gilets jaunes, enfin sur le mouvement, pas sur les Gilets jaunes eux-mêmes, mais sur le mouvement, je constate, d'abord, j'ai été réveillé ce matin par quelque chose qui m'a beaucoup choqué sur France Inter, on a expliqué dans les infos que les Gilets jaunes revendiquaient une baisse de la TVA pour un certain nombre de produits, qui voulaient que la liste des produits concernés soit élargie aux vêtements. Alors, ça a l'air banal comme ça, mais en fait, je me rends compte que les Gilets jaunes, pour la plupart, sont apolitiques, impolitiques, désidéologisés, et non pour seul en fait concept, hein, comme contenu et leur discours le montre très bien, que des problématiques qui sont pas non pas du tout liées au pouvoir d'achat comme ils le disent, mais plutôt au niveau de vie. C'est-à-dire qu'ils en veulent plus. Il y a une sorte de jalousie de ce qu'ils appellent les classes privilégiées, etc. Mais ils ne parlent jamais de pauvres, ils ne parlent jamais de chômage, ils ne parlent jamais. Toutes ces questions-là sont absolument absentes du discours et absolument absentes des revendications. Et j'en suis très étonné. Et s'il y avait un peu d'idéologie dans ce mouvement, ben je pense que ça ferait une petite respiration et ça permettrait notamment aux gens organisés, notamment aux syndicats, de se révéler.
Merci Serge pour cette intervention. Pierre Rosanvallon.
Ben, il est sûr dans les faits que les Gilets jaunes, même si effectivement il existe encore peu d'études sociologiques de fond, les Gilets jaunes sont plutôt la France des petits salariés ou des petits indépendants, mais pas la France des exclus. Il y a 4,5 millions de personnes en France qui vivent des minima sociaux. Le RSA, l'allocation adulte handicapé, le minimum vieillesse, eh bien, on ne les voit guère sur les ronds-points. Cela, ça c'est absolument sûr. Mais la caractéristique qui ressortait de ce que disait l'auditeur, c'est ce sentiment un petit peu de distance générale, de défiance. Mais cette défiance, elle apparaît peut-être très forte, mais il faut voir d'où vient la défiance. La défiance, elle vient aussi du manque d'information. La défiance, elle vient du fait que on ne peut pas se projeter dans l'avenir sur quelqu'un. Et ce mouvement, me semble-t-il, au premier chef, appelle à dépasser l'atmosphère de défiance qu'il y a. Restaurer la confiance, cela veut dire quoi? Cela veut dire que des personnes politiques soient plus crédibles. Et plus crédibles, pourquoi? Parce qu'elles montrent qu'elles s'intéressent à ce que vivent les gens, qu'elles sont sensibles à ce que leurs difficultés. Et c'est ça qui est très important, c'est reconstruire aussi. Ce mouvement, il appelle à la reconstruction de la confiance, parce qu'il repose sur le constat d'une défiance manifeste et globale.
Une dernière pour la route, Pierre-Rose Anvallon, elle nous vient aussi de l'application France Inter. Qu'est-ce que vous pensez de la présence de Marlène Schiappa chez Cyril Hanouna? Point d'interrogation. Merci, nous dit Renaud.
Je ne suis pas un auditeur régulier de ces émissions, mais je pense que il ne faut pas avoir peur d'aller dans des émissions populaires. Ça n'est pas du tout la fonction, moi je ne me vois pas répondre à ce type d'invitation, mais qu'une personnalité politique se rende
ça me semble
même positif. Je crois que après tout ces émissions, semble-t-il, ont un type d'auditoire qui mérite aussi d'être respecté, qui mérite d'être écouté et que l'on parle avec lui.
Merci Pierre Rosanvallon. Le fond de l'air est jaune, comprendre une révolte inédite, le titre de cet ouvrage collectif des éditions du Seuil auquel vous participez. Et puis en 2014, il y a 5 ans, le livre est disponible, Le Parlement des Invisibles. Merci d'avoir été dans le 7-9 ce matin.